Oui, je vais l'avancer là, ça dépend peut-être du réglage aussi. Nous, il faut qu'on se tienne à 5-10 cm du micro.
D'accord. Oh, j'ai pas besoin du micro.
Ouais, parce qu'il est, il est lourd. Hein.
Non, mais c'était. On va mettre le micro pour commencer. Bon, ben, on va commencer, si vous voulez bien. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être venus donc, à l'espace Mendès France. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Chauveau, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Donc, effectivement, dans le cadre de l'exposition actuellement présentée à l'espace Mendès France, La fabrique de la paix, je regarde pas l'affiche. Donc, nous, dans cette exposition qui est à l'étage, là, qui parle notamment des notions de violence, de guerre, et puis d'autres notions sur le racisme, qui s'adresse plus particulièrement à un public de jeunes. Nous avons un cycle de conférences donc, qui accompagne cette exposition. Et c'est dans ce cadre de cette exposition qu'on a demandé à M. Chauveau s'il acceptait de venir donc, faire une conférence. Il nous a proposé d'intervenir sur le thème donc, violence et conciliation en France, 19e, 20e siècle. Voilà, donc je vais lui laisser tout de suite la parole en le remerciant.
Merci. Bonjour, bonjour à vous. Alors, je parle assez près du micro parce que c'est enregistré en même temps. Hein. C'est pas parce que j'ai peur que la voix ne porte pas, mais il y a des consignes qui ont été données. Et puis, comme les universitaires sont forcément disciplinés, donc je respecte les consignes qui me sont données. Alors, en guise de présentation ou d'ouverture, je voudrais tout d'abord dire que, d'une façon générale, et là, vous le savez, c'est pas un scoop, que la violence civile et les guerres fratricides ont été considérées, quels que soient les auteurs, les supports, les dictionnaires, les films, les médias, comme finalement la pire des guerres possibles. Et donc là, il y a vraiment quelque chose autour de la guerre civile qui est particulier. Alors, cette guerre civile peut être étudiée, et ça, c'est peut-être une première remarque un petit peu méthodologique, mais rassurez-vous, il n'y en aura pas trop. La guerre civile peut être étudiée dans l'instant, et donc évidemment, c'est toujours difficile. Comment les différents acteurs qui ont été pris dans une guerre civile ou dans une violence civile ont-ils pu percevoir les événements? Ensuite, la guerre civile peut être aussi donc examinée un peu plus tard, au moment où les acteurs, après les événements, se sont interrogés sur ce qu'ils avaient vécu, et comment donc ces acteurs peuvent restituer ou raconter les différentes phases des péripéties qu'ils ont pu donc connaître. Et puis, on a aussi... Alors, moi, je ne suis pas familier avec celui-ci. Ça. Voilà. On a aussi dans ces acteurs, et c'est un élément qu'il faut prendre en considération, le fait de vouloir justifier des prises de position, des comportements ou des conduites. Et là, vous avez donc une citation qui est tout à fait donc éclairante. Hein. L'insurrection fut de telle nature que toute transaction avec elle parut sur le champ impossible et qu'elle ne laisse dès le premier moment d'autre alternative que de vaincre ou de périr. Donc voilà, là c'est un programme, il n'y a pas d'autre solution, on y va carrément. Et là, cette citation n'est pas forcément d'un représentant des forces de l'ordre, c'est d'un homme politique, Charles de Rémusat, qui a laissé donc des mémoires et qui a occupé des fonctions politiques relativement importantes au cours du 19e siècle. Donc vous voyez un responsable, un personnage bien en vue, qui donc, sans état d'âme, se laisse aller à ce genre de déclaration. Alors, c'est cette guerre civile... pose, ici vous avez donc des images un petit peu symboliques. La première, c'est les émeutes, les révolutions au XIXe siècle. Mais après ça, on le verra tout à l'heure, il y a des continuités pour la période de l'entre-deux-guerres, voire même parfois pour certains combats au moment de la libération ou au début du régime de Vichy. Alors toujours est-il que cette première vignette, vous le voyez, c'est aussi une reconstruction. Il y a des acteurs qui ont participé aux combats. C'est des combats de rue, c'est les combats des barricades. La France est un petit peu la championne du monde des barricades au XIXe siècle, puisqu'un certain nombre d'auteurs ont même calculé le nombre de pavés que devait contenir la barricade idéale. Alors ici, simplement dans cette première vignette, ce qui est important, c'est que la guerre civile à ce moment-là est plutôt valorisée. Vous voyez, on a l'impression que tout le monde est associé, les femmes, les enfants, qu'il y a une sorte d'unanimité du peuple à ce moment-là pour défendre leur maison et puis se battre à ce moment-là contre les représentants du régime en place. Deuxième type de barricade, donc là il ne s'agit pas d'une fiction ou d'une invention graphique, il s'agit véritablement d'une sorte de décalque ou d'une vignette. Alors la qualité n'est pas très bonne, mais l'original non plus. Hein. Donc là il n'y avait rien à faire de toute façon. Mais on voit à ce moment-là qu'un certain nombre de barricades d'entraves dans la cité ne sont pas du tout symboliques. Ce n'est pas simplement une barrière qui ferait un mètre de hauteur. on voit que là, on a pris une diligence, on l'a renversée. Au 19e siècle, on pouvait aussi, par exemple, prendre éventuellement une locomotive. On trouve éventuellement à proximité le cadavre mort, enfin le cadavre d'un cheval, eh bien, on le met aussi dans la barricade. Donc là, on a véritablement toute une série d'éléments autour de la guerre civile. Alors simplement, l'autre question qu'il faudrait évidemment donc se poser, c'est dans le cadre de ces engagements, de ces guerres civiles, c'est la question des objectifs. Avec quelle visée les uns ou les autres ont pu participer à un moment donné donc, à ces combats fratricides, à ces déchirements. Et puis enfin, troisième petite remarque qu'il faudrait aussi prendre en considération, c'est le fait que lorsqu'un événement, et là ce n'est pas propre simplement à la conférence d'aujourd'hui, c'est une vérité, si je puis dire, qui est transversale, lorsqu'un événement est mis en récit, le récit lui-même est déjà éloigné de l'événement. Il y a toujours une distance ou un écart entre l'événement qui est vécu par les protagonistes et la mise en récit ou la mise en relation de ces différents donc, événements. Alors, dans ces cas-là, il s'agit d'une histoire qui est restituée, soit par les différents protagonistes qui laissent des mémoires, des souvenirs, éventuellement qui peuvent s'épancher auprès de proches dans des correspondances, ou alors c'est mis en récit par les professionnels, c'est-à-dire par des historiens ou des historiennes qui vont essayer de retracer les différents événements et puis éventuellement donc de leur donner du sens. Alors ce qui est important aussi, vous l'avez bien sûr déjà de deviner, c'est que ces différents éléments vont s'inscrire dans la mémoire collective, soit dans la mémoire familiale, soit dans la mémoire de groupe, voire éventuellement dans la mémoire régionale, même si parfois ça peut disparaître. Je vous donnerai juste un exemple. Ici à Poitiers, il y a eu des barricades en 1832, on les a oubliés de la mémoire collective. Bon, et pourtant, on a jeté les registres d'octroi dans le Clain. Vous voyez, donc la mémoire l'a colportée jusqu'aux années 1870. Et après, ça a été totalement donc effacé, si je puis dire, des différentes références. Alors, je vous proposerai tout d'abord donc une première entrée autour de la culture de la violence et de l'intransigeance. Alors, cette culture de la violence et de l'intransigeance, il faut partir tout d'abord de la Révolution française. Et la Révolution française, donc celle qui, bien sûr, commence en 1789, invente d'une certaine manière la première modernité politique. Alors, il y a un débat entre les historiens pour savoir quand commence la modernité politique. Tout le monde n'est pas d'accord. On peut supposer simplement qu'il existe plusieurs modernités. Et la première modernité politique, c'est celle de la Révolution française. Et le vocabulaire utilisé à ce moment-là est un vocabulaire qui est extrêmement important. Il faut faire attention donc aux mots, aux expressions et au vocabulaire employé qui sont jamais neutres et qui sont toujours les témoins ou les révélateurs d'une époque. Alors la formule, par exemple, « haro sur les tyrans, les traîtres et les tièdes » pourrait un petit peu donc résumer la période. La formule est importante parce qu'elle pourrait à la limite presque être prononcée par les deux camps, les royalistes qui ne supportent pas Robespierre, et puis éventuellement de l'autre côté, eh bien c'est le roi auquel on attend donc assez vivement donc son procès. Alors ce qui veut dire aussi, c'est que dès la Révolution française, il y a une catégorie qui est mise à côté, un petit peu sur Astrapontin, qui est décriée, dévalorisée, c'est la catégorie des modérés. Alors il y a quelques historiens qui se sont attachés à essayer de faire une histoire des modérés. Ça intéresse modérément. C'est comme l'histoire du bonheur. On préfère l'histoire du malheur à l'histoire du bonheur. Quand il n'y a pas d'aspérité, bon, en général, ça ne provoque pas, si je peux dire, un engouement donc particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder à ce moment-là le regard des différents observateurs étrangers qui ont pu aller en France au moment de la Révolution française ou dans les 20 années qui ont suivi la Révolution française. Et pour la plupart de ces observateurs étrangers, à travers les textes ou les phrases ou les considérations qu'ils ont pu laisser, ils considèrent que finalement donc, la France aime particulièrement donc, le conflit, et c'est au conflit que la France et les Français aspirent. Voilà, c'est un petit peu l'image de marque, si je peux dire, le label qui peut être éventuellement donc, exporté. Alors, en France, on peut donc affirmer qu'au moins au 19e et au 20e siècle, c'est bien donc les guerres franco-françaises qui structurent le débat politique. Et même si parfois donc, les conflits, les antagonismes se sont édulcorés, on fait toujours référence à des moments ou à des situations donc, plus anciennes. Et souvent, et c'est ça qui est important, c'est que l'évolution de la société française est toujours vue à l'aune de ces guerres fratricides qui apparaissent toujours dans les discours. Bon, par exemple, quand on dit sommairement « nous ne sommes pas du même côté de la barricade », c'est une déclaration de Clémenceau, elle est un peu plus tardive, c'est 1906 au moment de sa première apparition. Et ce genre de formule, c'est une formule qui n'est pas prête, si je peux dire, de disparaître des références politiques communes. Alors, Ce qui est important aussi, toujours dans cette présentation de cette première entrée, c'est que à partir en France de février 1848, alors février 1848, je vous le rappelle, c'est la première révolution de l'année. On instaure un petit peu par surprise la République et on prend un certain nombre de mesures qui sont absolument essentielles. C'est le suffrage universel masculin, la fin de l'esclavage dans les colonies, puisque l'esclavage existait encore, et puis la fin des supplices lorsque l'on décide de punir quelqu'un. Donc il n'y a plus de supplice corporel en dehors de l'exécution capitale. Et donc en février 48, il y a un discours important qui se met en place à ce moment-là. Le discours est le suivant, qui consiste à dire que finalement, il va désormais exister le droit de vote, et que ce droit de vote qui se met en place rend illégitime l'usage de la violence. Donc 1848, en mars 1848, c'est affirmé. Et ce discours est important, puisqu'après ça, tous les acteurs qui vont être partie prenante d'un mouvement violent ou d'une guerre franco-française ou de combat fratricide vont être obligés de composer avec ce discours qui va finir régulièrement par l'emporter, mais de temps en temps, bien sûr, qui va connaître un certain nombre d'accrocs, sinon on ne pourrait pas le comprendre. Ce qui veut dire aussi qu'en France, alors ce n'est pas le cas par exemple en Angleterre, il n'y a quasiment pas de révolution, ou si on fait la comparaison avec la Suisse, il n'y a pas de barricade au 19e siècle. Et un de mes collègues suisses a fait un très bel article de 30 pages sur l'absence de barricades en Suisse, notamment dans le canton de Vaud au 19e siècle. Bien, alors je reviens, si je peux dire, à mon propos. Et donc il y a véritablement une tension qui se met en place entre cette culture de la violence et puis cette culture électorale qui s'affirme très nettement donc en 1848. Alors, dans cette première entrée, on va essayer de voir rapidement donc trois aspects. Tout d'abord, peut-être les héritages. Ensuite, autour de la culture de la haine. Et puis ensuite, comment le discours s'est mis en place autour d'un ennemi à abattre. Alors, concernant donc les héritages, il faut savoir que très tôt, dès le début du 19e siècle, il y a un certain nombre d'observateurs qui essayent de prendre du recul et de regarder avec un certain détachement la société française, et ils considèrent que finalement, il y a en France des divisions profondes. Ces divisions profondes sont nées avec la Révolution et avec l'Empire, et qu'il est impossible, eh bien, finalement, d'échapper à ces divisions. Alors, ces divisions ont construit des représentations politiques, mais aussi des imaginaires sociaux, et ces imaginaires sociaux existent encore aujourd'hui. Alors, on peut le voir à travers un certain nombre de dessins, de gravures, de tableaux qui présentent par exemple la guerre franco-française de 1793 assimilée à la Grande Terreur. On a à ce moment-là toute une sorte de représentation. Et dès cette époque-là, on a l'impression que la société française est divisée en deux camps qui vont être réajustés après. Le premier clan, c'est celui des Bleus. Les Bleus, ce sont les Républicains qui représentent le courage et l'héroïsme. Alors que de l'autre côté, on a les Blancs qui incarnent à ce moment-là, tout ce qui relève de l'oppression, de l'archaïsme et du mal. Alors évidemment, cette vision ne sera pas forcément la même par rapport aux royalistes, mais on a une vision comme ça qui est dominante et qui va s'affirmer très nettement avec la mise en place des premiers manuels républicains, un petit peu plus tardivement, au début de la Troisième République. Puisque vous savez qu'au début de la Troisième République, les programmes scolaires sont affichés en 1879 et qu'à partir de là, ils vont être généralisés. Alors, on a dans cet imaginaire politique, tout d'abord, les perceptions de la Grande Terreur de 93, et la Grande Terreur de 93 est quelque chose qui est pratiquement indépassable dans la culture politique française. On peut la condamner, on peut passer par-dessus, voilà, mais on ne peut pratiquement pas l'ignorer. Ensuite, les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée ont aussi structuré donc très fortement l'imaginaire collectif. Elles sont encore présentes aujourd'hui, et même si on n'est pas spécialiste des guerres de Vendée, il ne faut pas oublier que les mouvements donc se sont poursuivis jusqu'au début des années 1830. Donc les guerres de Vendée, ce n'est pas simplement pendant la séquence révolutionnaire la plus connue, mais elles se sont étendues par des mouvements, des protestations sporadiques, au moins jusqu'en 1833-1834. Bien. Et à partir de là, eh bien, les différents récits des hommes politiques, quelle que soit, si je peux dire, leur appartenance, vont se structurer à partir de ces divisions. Alors, ici, c'est pour vous montrer aussi comment cette perception et ces représentations et ces divisions vont passer dans la mémoire familiale. Ce n'est pas simplement les discours politiques au Parlement ou dans les chambres, c'est aussi dans la mémoire familiale. Alors ici, vous avez un petit texte de 1817 qui dit la chose suivante, « Il n'en reste plus guère de ces mauvaises plantes, il faut les extirper, les détruire jusqu'à leurs plus profondes racines. » Alors évidemment, le discours peut sembler un petit peu incongru. Bien, il s'agit tout simplement de la déclaration donc d'un curé dans son église, dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse. Alors comme je veux me fâcher avec personne, puisque mon père habite dans la commune en question, donc je ne vais pas citer le nom, parce qu'après, bon, il pourrait y avoir, si je puis dire, des retours. Mais on voit bien à ce moment-là que en 1817, on pouvait supposer que du temps s'était écoulé par rapport à 93, voire même 93 ou 95. Et à ce moment-là, cette déclaration vise plus particulièrement ce qu'on appelait à ce moment-là les patriotes. Et les patriotes, c'est le nom que l'on donnait, ou qui était affublé aux Jacobins. Voilà. Donc là, c'est véritablement donc une déclaration de guerre, mais qui est faite évidemment donc dans un lieu a priori qui devait respecter, si je peux dire, une certaine neutralité. Et à ce moment-là, donc en France, en 1817, eh bien, ceux qui sont patriotes sont pourchassés. Il y a un certain nombre de morts. C'est la suite un petit peu d'un épisode qui est moins connu, qu'on a appelé la Terreur blanche. Et dans un certain nombre de villages, on a même promené, acheminé des guillotines à roulettes pour faire un exemple et pour que ça aille plus vite. Vous voyez, donc là, on est donc dans une période particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le récit et ce propos du curé est en fait restitué par un enfant qui lui-même a été traumatisé parce qu'il a entendu... parce que lui s'est rendu à l'église. Voilà, c'est le propos. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'un jeune enfant qui avait 7 ans, 8 ans, donc à ce moment-là, eh bien, a été bercé par ce genre de propos dans son enfance, évidemment, parvenu à l'âge adulte et au moment d'un certain nombre d'engagements dans son existence, c'est quelque chose qui va le marquer de manière indélébile. Bien. Et donc, un certain nombre d'autres auteurs connus, notamment les grands historiens du début de la Troisième République qui vont occuper les postes à la Sorbonne, eh bien, vont sans doute, pour la plupart d'entre eux, avoir une enfance qui va être baignée par des références à peu près donc similaires. Alors, cet exemple donc n'est pas du tout isolé. Il existe bien de France. Et on le voit avec un exemple plus particulier, c'est dans le département du Gard. Alors, dans le département du Gard, c'est un département qui a contenu des affrontements un petit peu particuliers, avec des références à la fois religieuses et politiques un petit peu particulières. Mais dans le Gard, va se pratiquer jusqu'aux années 1830, donc on le voit, on est encore beaucoup plus loin que 1817, jusqu'en 1830, des pratiques de vengeance politique. Et cette vengeance politique va se faire à deux niveaux. Il y a une vengeance populaire, où à ce moment-là, eh bien, on va se venger concrètement, physiquement, et on va laisser donc des cadavres à la croisée des chemins. Et puis, il y a une autre forme de vengeance, qui est celle des élites, qui va condamner ce passage à l'acte ou ces vengeances populaires en disant que de toute façon, c'est condamnable, mais il s'agit de prendre une revanche définitive sur les adversaires. Bon, vous voyez, on a donc un contexte un petit peu particulier. Alors, tout cela donc pour vous dire qu'il y a bien donc une culture de la haine. C'était un petit peu le deuxième point que je voulais traiter ici. Alors, cette culture de la haine, pour la saisir, il faut d'abord peut-être partir, là j'étais un petit peu trop vite, en mars 1841. En mars 1841, vous avez une revue qui existe encore aujourd'hui, qui est très connue, qui est le fer de lance du renouveau de la presse. Cette revue s'intitulait « La revue des deux mondes ». Et cette revue des deux mondes, en 1841, propose un numéro qui est d'une modernité absolument exceptionnelle. Si vous avez des loisirs, n'hésitez pas, lisez donc cette revue-là qu'on peut encore consulter. Puisque ce périodique, de manière collective, essaye de faire un bilan de la situation française de 1789 jusqu'aux années 1840. C'est donc un regard rétrospectif à rebours sur la situation française. Et à ce moment-là, les rédacteurs de la Revue des Deux Mondes, qui évidemment a plutôt des sympathies royalistes, mais la rédaction essaye d'être le plus objectif possible, et elle souligne que finalement, ce qui existe en France, c'est une haine, que cette haine est une redoutable énergie, et que c'est la plus envenimée et la plus funeste des armes politiques. Donc, pour les rédacteurs, la haine est un petit peu le moteur de la vie politique, c'est le moteur de la société, et c'est l'élément donc le plus important pour comprendre les comportements, les ajustements. Ce qui me permet donc d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que la haine, jusqu'à présent, il n'y a pas d'histoire de la haine, puisque souvent, donc, on considère... Pour l'instant, donc, il n'existe pas donc d'histoire de la haine. Et pourtant, donc, la haine est un élément donc, qui est essentiel si on veut faire donc, l'histoire des sociétés. Alors évidemment, c'est relativement difficile, puisque pour faire l'histoire de la haine, il faut prendre le risque de faire un petit peu de la psychologie historique, qui a parfois donc mauvaise presse, mais c'est indispensable pour comprendre l'atmosphère d'une société, d'une époque. Alors, cette culture de la haine, elle est entretenue par des paroles, par des écrits, par des comportements, et elle a été l'objet de quelques rares études. Alors, l'un des seuls qui a risqué, si je puis dire, une sorte de vision un petit peu prospective et panoramique de la haine, c'est quelqu'un qui s'appelait Raoul Frary, pardon. C'est un auteur qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, qui était normalien, qui a été donc couronné par l'Académie française, et qui, en 1884, était un journaliste. Donc, il avait une plume alerte et élégante. Il était recherché par un certain nombre de comités de rédaction. Donc, on voit parfois sa signature dans plusieurs journaux de cette époque-là. Et pour lui, donc, la haine, c'est un des plus puissants ressorts des choses humaines. Elle n'a pas besoin d'un objet précis, car elle s'attaque volontiers aux masses. On aime quelques hommes, on en hait des milliers, une race, un peuple, un parti, une église. Alors, j'aurais pu enlever le nom de l'auteur et puis l'année. Et ce type de citation pourrait tout à fait donc s'appliquer à la situation d'aujourd'hui pendant le régime de Vichy ou à d'autres périodes de l'histoire de France. Bien. Alors, pour comprendre la haine et les logiques de la haine, il faut convenir aussi que souvent, et c'est Raoul Frary qui le dit, il faut convenir que souvent donc les hommes et les femmes, et au XIXe siècle c'est plutôt les femmes qui vont alimenter donc la haine, les hommes et les femmes sont souvent donc plus ardents, et là je le cite à nouveau, à venger plutôt que des griefs réels, des griefs imaginaires. Et c'est-à-dire que dans la vie politique, eh bien finalement, on va prêter à l'autre formation un certain nombre de références, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'actions passées. Et donc là, évidemment, peu importe que ces actions aient bien eu lieu, évidemment, on va les prêter, on va les associer, et ça va être grossi progressivement. Alors, après donc 1884, non, excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite, je reste sur cette citation. Et donc, Raoul Frary a également, donc, à un moment donné, une formule qui est tout à fait efficace, c'est-à-dire qu'il va dire que, finalement, on va s'atteler à la construction d'une mémoire. Et cette construction d'une mémoire, autre citation que je ne vais pas vous présenter ici, mais voici ce qu'elle le disait, « C'est ainsi que tous les royalistes sont responsables des méfaits de tous les rois, tous les républicains sont responsables du sang versé par la terreur, tous les bonapartistes sont responsables du 2 décembre et de Sedan, tous les catholiques sont responsables de l'Inquisition et tous les catholiques sont responsables du massacre des Albigeois. » Alors, peu importe la formule, il y a le procédé, bien sûr, à rhétorique qui est mis donc en avant. Mais ce qui est important, c'est de souligner que, eh bien, dans la vie politique et vis-à-vis de la haine, on procède par amalgame et par généralisation. Et évidemment, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas forcément une analyse toujours très fine, mais c'est redoutable. Alors, plus tardivement, vous avez un certain nombre de personnalités, et au XIXe siècle, il n'y en a pas beaucoup, qui se sont intéressés aussi à la haine. L'un d'entre eux, c'est quelqu'un qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Louis Proal. Et Louis Proal signe un livre qui est le seul de son exemple. C'est un livre, bah, tout simplement, sur la criminalité politique. Et donc, des ouvrages sur la criminalité politique, il n'y en a pas d'autres. Hein, sur le XXIe siècle, on a quelques livres un petit peu plutôt sur la corruption ou sur des délits politiques, mais sur la criminalité politique en tant que telle, il n'existe pas d'ouvrage. Donc là, il y a une vraie lacune en France, peut-être des réticences. Et Louis Proal est quelqu'un qui avait aussi une double casquette qui est tout à fait inédite, c'est-à-dire qu'il était à la fois magistrat, il a été notamment donc... Parquetier, il était donc procureur général, donc ce n'est pas rien. Il y a 27 cours d'appel à cette époque-là en France. Et en même temps, donc, Louis Proal a également donc passé un doctorat de droit. Et comme il considérait que ce n'était pas suffisant pour avoir une vision panoramique, il a fait des études de médecine et il a soutenu une thèse de doctorat en médecine. Vous voyez, bon, donc, ce n'est pas si fréquent que ça, donc on est en 1895. Et en plus, comme il avait l'impression qu'il avait quelques loisirs, c'est aussi un essayiste. Il se fait connaître par un certain nombre de publications, dont cet essai que j'ai mentionné sur, bah, tout simplement, donc, la criminalité politique. Alors, voici son propos. « Les haines politiques sont si intenses que la proscription d'un adversaire devient une jouissance, l'homme haineux éprouve du plaisir à voir souffrir sa victime. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une phrase qui date de 1895, et en France, en 1895, c'est le moment où on invente une nouvelle catégorie, c'est la catégorie de crime sadique, et donc on voit une sorte de paraphrase de Louis Proal par rapport aux propos qui sont dans l'air du temps. Donc voilà, il applique un petit peu mécaniquement, si je peux dire, cet esprit de jouissance aux considérations qui sont en vogue à ce moment-là, donc sur le crime sadique. Alors, ce qui est important, c'est que cette théorie-là n'a pas attendu, si je peux dire, que s'affirme ce qu'on a appelé parfois les théories de l'affrontement, c'est-à-dire les théories de lutte de classe, les théories nationalistes et autres, pour tout simplement donc, constituer aussi un groupe d'exclus. Alors, voilà. Alors, dans ce groupe d'exclus, c'est évidemment que pour les contemporains, il importe évidemment donc de désigner un ennemi. Pour que cette haine puisse être efficace, il faut qu'un ennemi soit désigné. Et la construction de l'ennemi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et on peut supposer que chaque société a peut-être les ennemis qu'elle mérite, mais en tout cas, chaque société s'évertue à construire des figures d'ennemis et qui ne sont pas les mêmes. Et donc là, il faudrait mener une étude plus fine, comparative. Par exemple, quels sont les ennemis politiques en Espagne? Quels sont les ennemis politiques au Royaume-Uni? Quels sont les ennemis politiques en Russie? Quels sont les ennemis politiques aux États-Unis ou en France? Alors, dans ces ennemis, c'est évidemment donc avec la Révolution française que va naître la figure de l'ennemi inflexible. C'est à ce moment-là que ça se met donc véritablement en place. Et à ce moment-là, le principe de base est relativement simple. Ça consiste à dire que l'adversaire, c'est un ennemi, et avec l'ennemi, il n'est pas possible de pactiser ou de négocier. Donc à ce moment-là, il n'y a qu'une seule solution possible. Si on ne veut pas être détruit ou abattu par lui, il faut l'éliminer. Bien. Donc on a à ce moment-là une première théorie pragmatique de l'ennemi qui se met en place, et puis après ça que d'autres auteurs à la fin du XIXe siècle ou à l'orée, si je puis dire, des années 20, essaieront donc de mettre plus particulièrement donc en ligne. Et à ce moment-là, évidemment, ce qui est essentiel, c'est qu'il existe deux camps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui est important, c'est que chacun, très tôt, dès le début du XIXe siècle, est sommé de choisir son camp. Il n'y a pas de place pour ceux qui voudraient être neutres, chacun est sommé de choisir son camp. Et le théoricien de cela, eh bien finalement, c'est quelqu'un qu'on a un petit peu oublié dans ce rôle-là. Ah, petite erreur, là, j'ai dû le mettre plus loin. Bon, bah, tant pis, alors, je vais vous la lire. Alors, celui qui a donc construit la première figure peut-être collective de l'ennemi, c'est Chateaubriand. Alors Chateaubriand, je n'ai pas besoin de vous le présenter, donc, hein, c'est un romancier donc, absolument exceptionnel. Quand il produisait un certain nombre de romans comme René ou Atala, les jeunes filles qui lisaient ces romans-là, ou les jeunes gens tombaient en pamoison tellement bon, il y avait une forte émotion. Mais Chateaubriand est aussi un homme politique, quelqu'un qui est un petit peu turbulent, à tel point que le roi de l'époque va l'envoyer au-delà de la Manche en Angleterre pour le laisser un petit peu tranquille, parce que c'est quelqu'un qui était plutôt du côté des ultras. Mais malgré tout, donc, Chateaubriand donc, va inventer la figure de l'ennemi. Et voici ce qu'il écrit. « L'horreur de l'usurpateur est dans tous les cœurs. Il inspire tant de haine qu'il a balancé chez un peuple guerrier ce qu'il y a de plus dur dans la présence d'un ennemi. » Alors, vous l'avez compris, ça veut dire tout simplement qu'il existe une juste haine. Et je poursuis, enfin non, j'explique plutôt son propos. Pour Chateaubriand, ça veut dire tout simplement qu'il existe deux catégories d'ennemis, un ennemi de l'intérieur et un ennemi de l'extérieur. Et lorsqu'il écrit en 1817, la France est encore occupée, il y a une présence de la coalition européenne. Et à ce moment-là, pour lui, l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire les partisans de l'usurpateur, c'est-à-dire de Napoléon Ier, sont pires que les ennemis de l'extérieur qui occupent le territoire français. Voilà. Donc 1817, la figure de l'ennemi radical, à ce moment-là, est posée. Et cette figure, évidemment, on la retrouvera avec beaucoup plus d'acuité pendant le régime de Vichy, avec un discours spécifique sur la cinquième colonne, les francs-maçons et autres, les terroristes qui étaient censés représenter donc les résistants. Voilà. Mais dès 1817, on a en France cette culture de l'ennemi absolument épouvantable, avec lequel on ne peut pas pactiser. Bien. Alors, ensuite, ce qui est important aussi de savoir et de prendre en considération, c'est qu'en France, il y a aussi une particularité, une spécificité. Vers les années 1830, on va construire une deuxième figure de l'ennemi qui est une figure collective. Et cette figure collective de l'ennemi, on va lui attribuer un nom, c'est le nom de la canaille. Donc la canaille, qu'est-ce au juste? Tout simplement, c'est un groupe un petit peu de hors-société, des personnages un petit peu louches qui circulent un petit peu dans les bas-fonds. Et ces personnages qui constituent la canaille constituent une sorte d'armée de réserve qui est prêt à descendre dans la rue les jours d'émeutes, de révolution, à n'importe quelle période. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot « canaille », on la retrouve dans le discours politique, plutôt du côté des vainqueurs. Et là, on le voit de manière sans discontinuer, de 1832 jusque, par exemple, sous la plume ou dans des discours de Laval pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, donc, autre figure collective, celle de la canaille. Alors évidemment, il faudrait tirer le fil plus complètement, faire un jour une histoire de la canaille. Voilà, donc là, si vous ne savez pas quoi faire pour les prochaines grandes vacances, je suis sûr que ça intéresserait un éditeur. C'est promis, donc si je veux dire, un succès de librairie. Je ne vous demanderai pas de pourcentage, voilà, je vous donne l'idée. Donc voilà, lancez-vous si vous voulez. Bien. Alors, à partir de cette figure collective, on a aussi donc un autre personnage que je voulais absolument donc présenter, c'est Jean Zay, qui est parfois donc un petit peu oublié. Jean Zay a été le plus jeune ministre du Front populaire. C'est quelqu'un qui a occupé donc différentes fonctions, qui est un écrivain aussi donc remarquable. Et voici ce qu'il écrit au moment où il est emprisonné en 1940 et en 1944, au moment où des deux premiers débarquements, eh bien finalement, il est extrait par la milice et il est assassiné. Hein, voyez. Mais voici ce qu'il écrit donc sans aigreur. Quand on lit, on est absolument subjugué par la grandeur d'âme et la hauteur de vue. Il écrit donc « Les hommes que nous étions en 1940 gardaient enfouis très loin en eux-mêmes leur sentiment essentiel, que de monstres hideux se dissimulaient sous les apparences de l'amitié, de la loyauté, du patriotisme. » Et pour lui, cette phrase-là ou cette citation, c'est une analyse plus fine que ce qu'elle peut laisser supposer. C'est-à-dire que il existe bien une atmosphère particulière, qu'un certain nombre de personnages avaient des ambitions, des sentiments, des idées, xénophobes ou autres, que ces idées, finalement, ils les avaient plus ou moins autocensurées, rentrées, et qu'à partir de 1940, du 10 juillet 1940, c'est une sorte de libération de ce type de propos et de ce type de discours. Et donc là, Jean Zay, 1840, le 10 juillet, c'est l'instant de vérité où à ce moment-là, si je peux dire, les véritables personnalités se dévoilent et occupent la scène publique alors qu'il y a un certain nombre de personnages qu'il avait fréquentés pendant 4 ou 5 ans, voilà, sans se poser donc plus de questions. Bien. Alors, ensuite, ma deuxième grande entrée, c'est autour peut-être des pratiques d'exclusion et de diabolisation. Puisque cette violence, pour essayer de voir comment elle s'exprime, il importe aussi, pas simplement de regarder un petit peu donc les théories, même si évidemment les théories de la violence en France ne sont guère développées, sauf dans le domaine social, mais c'est un petit peu une autre histoire. Et à ce moment-là, donc, la violence donne lieu à des pratiques, et ces pratiques de la violence peuvent aller jusqu'au massacre. Et tout à l'heure, donc, on verra un certain nombre d'exemples. Alors, ce qui veut dire, et vous l'avez compris, que le discours de guerre civile, c'est un discours qui n'est pas désincarné. Et pour comprendre ce discours de guerre civile, on peut passer par le vicomte de Launay, qui a une phrase un petit peu humoristique, mais qui résume bien la situation. Les uns ont un mot charmant qui les affectionne, qui résume toutes leurs pensées, fusillé, fusillé. Les autres ont aussi leur mot favori également, affectueux, qui dévoile tout leur système, guillotiné, guillotiné. Et donc, le vicomte de Launay, c'est en fait un pseudonyme. C'est Madame de Girardin qui se cachait derrière ce pseudonyme. C'est quelqu'un qui écrivait, qui faisait des rubriques mondaines dans un périodique qui s'appelait La Presse. Et La Presse, en 1848, c'est le premier quotidien en France. Et son mari, Émile de Girardin, est le premier à avoir eu l'idée d'utiliser la publicité pour baisser le prix de vente du journal. Et après, ce sera les succès de La Presse populaire. Donc on voit, ce n'est pas dans n'importe quel périodique que cette citation, si je puis dire, apparaît. Il y a une large diffusion. Et cette phrase-là veut annoncer tout simplement ce qui va se passer pendant l'année donc 1848, qui est donc une guerre civile absolument épouvantable, fratricide en France. La guerre civile de 1848 préfigure, si je puis dire, la Commune de Paris et la Semaine sanglante, et ça préfigure aussi les règlements de compte pendant le régime de Vichy et puis les moments de tension au moment de la libération. On a sans doute trois étapes particulières de violence physique, et donc le vicomte de Launay résume un petit peu, si je puis dire, ce propos-là. Alors évidemment, pour essayer de fuir un petit peu ces pratiques, on peut les examiner à travers un certain nombre d'entrées ou d'approches. Et tout d'abord, faire un petit peu un détour pour essayer de percevoir un petit peu donc l'atmosphère d'une société, pour voir que la question de la violence ne régit pas simplement les rapports politiques, mais qu'on la trouve aussi tout simplement dans les relations sociales. Alors, conflit et violence sociale, environnement et atmosphère. Alors, cette violence sociale, il faut savoir qu'elle elle apparaît en France très tôt, dès les années 1817. En 1817, on va introduire en France des métiers à tisser mécaniques. Et ces métiers à tisser mécanique ne sont pas inventés, évidemment, dans l'espace hexagonal, mais viennent d'Angleterre, hein, puisque l'Angleterre a accompli sa révolution industrielle. C'est le seul vrai pays qui l'a accompli, puisque le délai est assez bref. Et à ce moment-là, quand les métiers à tisser donc, sont installés en France, eh bien, les métiers à tisser vont être considérés comme l'ennemi des ouvriers. Et la France fait sa première industrialisation, plus tardivement, à partir des années 1830. Et donc, entre 1817 et, en gros, 1837-40, eh bien, dans un certain nombre d'endroits en France, plus particulièrement du côté de l'Isère, et non pas dans le nord de la France, parce que l'Isère va être un petit peu le fer de lance pour l'introduction de métiers à tisser mécaniques, eh bien, on va avoir des mouvements de protestation contre ces métiers à tisser. Et à ce moment-là, les ouvriers, les artisans ou les tisserands ne vont pas s'en prendre à ceux qui ont fait l'acquisition de ces machines qui vont les introduire. Leur cible, ça va être tout simplement ces métiers à tisser. Alors, elles vont être surnommées d'ailleurs la grande faucheuse. Alors, la grande faucheuse, ben, tout simplement parce que la grande faucheuse fauche le travail des ouvriers et les met au chômage. Et à ce moment-là, pour se venger de ces machines, eh bien, on va faire des bûchers, on va les mettre au centre, on va mettre le feu à ce moment-là à tout ce qu'on avait constitué, et puis, à ce moment-là, de manière un petit peu carnavalesque, on va danser donc une sarabande tout autour de ces métiers donc à tisser. Bien. Alors, à ce moment-là, on a bien une résistance par rapport aux machines, et la relation de l'ouvrier avec la machine, c'est un élément qui est essentiel. Il n'y a pas eu beaucoup d'études dessus, mais qui va conditionner un petit peu donc toute la société française, avec un retour aujourd'hui, donc, vous l'avez vu au moins depuis une dizaine d'années, à des formes qu'on a appelées le néoludisme, puisque le ludisme, c'est une des formes que je viens d'exprimer. Les formes de néoludisme, c'est tout simplement le fait de menacer, par exemple, de déverser du poison ou un produit toxique dans une rivière, ou éventuellement de faire exploser une partie de l'usine ou de son instrument de travail. Donc il y a eu une parenthèse historique pendant plus d'un siècle, et puis depuis une dizaine d'années, eh bien, on a des retours à ces formes de protestation donc, collective. Vous voyez, donc, c'est intéressant aussi d'avoir comme ça la mise en perspective historique. Alors, toujours est-il qu'en France, à partir de 1830, dans le monde social, il y a un certain nombre de grèves ou de mouvements de protestation. Et ces grèves, en général, c'est ce qu'on a appelé les grèves émeutes. Alors, il y avait une thèse de doctorat qui avait été soutenue il y a très longtemps, en 1964, qui n'a pas été réactualisée depuis. Et ces grèves émeutes s'expliquent pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de négociation. Les ouvriers ou les artisans ne sont pas des citoyens, ce sont plutôt des sujets ou des objets. Et en même temps, dans le cadre de ces différentes usines, eh bien, les gens ne savent pas comment faire. Est-ce qu'il faut exprimer des revendications? Est-ce qu'il faut faire une manifestation? Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de précédent. Ce qui fait que la plupart des mouvements sociaux, au moins jusqu'aux années 1848, sont des mouvements extrêmement violents, qu'on appelle à ce moment-là des grèves émeutes, qui provoquent ou qui entraînent souvent donc la mort de plusieurs personnes. Bien. Alors, ça, c'est pour donner un petit peu le cadre. Alors, je reviens maintenant au bris de machine. En France, d'un point de vue symbolique, le dernier bris de machine, ce n'est pas tout à fait exact, c'est 1867 à Roubaix. Donc, à ce moment-là, le nord de la France est vraiment donc devenu le miroir, si je peux dire, de l'industrialisation française. Et en 1867, à Roubaix, il y a un mouvement de protestation contre une usine qui fabrique du textile. Et à ce moment-là, donc, les ouvriers qui entrent en rébellion vont saccager absolument toutes les machines et tous les bâtiments. Et puis en même temps, comme à côté, il y a les maisonnettes des ingénieurs. Bon, les maisonnettes des ingénieurs vont passer aussi, si je peux dire, dans la catégorie perte et profit donc, de ce mouvement social. Alors, ça, d'un point de vue symbolique, c'est la dernière grande protestation. C'est ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans un certain nombre de manuels scolaires. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que les mouvements de protestation contre les machines vont encore se poursuivre un petit peu plus tard, au moins jusqu'aux années 1890. Et là, c'est important parce que, d'une part, on va parfois essayer d'utiliser de nouvelles techniques. On a, par exemple, des tentatives de protestation contre des usines à l'aide de la dynamite. On introduit la dynamite en France et puis on se dit que ça peut être un moyen finalement peut-être de protestation. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples, mais simplement donc ces mouvements qui se poursuivent contre les bâtiments, on l'oublie trop souvent. Entre 1870 et 1890, eh bien, ceux ou plutôt celles qui vont être à la pointe de ces mouvements, ce ne sont pas des ouvriers hommes, ce sont des ouvriers femmes. Et les ouvriers femmes, on l'oublie trop souvent, ce sont les laissés pour compte du mouvement ouvrier. Puisqu'en gros, de manière schématique, le mouvement ouvrier, en France, vous avez un tiers d'étrangers, un tiers de femmes et un tiers d'hommes. Et en général, on ne parle que du tiers d'hommes et on oublie les deux autres tiers. Bien. Et donc, ce tiers de femmes qui va rentrer, si je puis dire, en contestation, ne sont pas soutenues par leurs propres organisations syndicales, qui vont soutenir soit leur mari, soit les hommes, puisqu'elles sont considérées comme des concurrentes de la gente masculine. Et donc, à ce moment-là, leur seule façon de protester, c'est de s'en prendre au bâtiment et puis de trouver des moyens de contestation qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou, à ce moment-là, de ce qui faisait partie, si je puis dire, des usages. Alors, simplement, on voit qu'à partir des années 1870, la grève est entrée donc dans les mœurs. Il y a la loi de 1864 hein, qui a été promulguée sous le Second Empire. Malgré tout, là, vous avez une vignette qui montre que les affrontements sont quand même des affrontements dans l'univers social extrêmement violents. Regardez, d'un côté, vous avez l'armée. De l'autre côté, vous avez les ouvriers derrière une barricade un petit peu improvisée. Il n'y a pas de force de maintien de l'ordre, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de conseil. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un affrontement, dès que ça dérape à ce moment-là, c'est des mouvements qui sont relativement donc violents. Et à partir des années 1890, c'est évidemment plutôt du côté des troupes que la violence se fait jour, puisqu'un certain nombre de soldats font leurs armes en Algérie et puis reviennent après ça en France pour maintenir l'ordre à la porte des usines. Donc on voit évidemment que le cahier des charges, si je puis dire, n'est pas tout à fait donc celui qui est demandé. Alors simplement, on voit que dans la mentalité collective, ou plutôt dans l'univers collectif, on va mettre en valeur le sabotage. Alors ce sabotage, ici, vous avez une publication donc de l'Assiette au beurre qui correspond donc au journal satirique le plus connu de cette période-là, en gros des années 1890 jusqu'aux années 1912. C'est l'âge d'or de la caricature ou du dessin de presse. Simplement, donc, le sabotage est une forme d'action qui est adoptée par le congrès de la CGT en 1897. En 1897, il y a une mention qui est proposée en disant parmi les formes de protestation, la manifestation, la grève, l'occupation d'usines, le sabotage. Et à ce moment-là, les différents observateurs au congrès de la CGT pensaient que c'était un peu une plaisanterie et que ça n'allait jamais être accepté. Pas du tout. C'est voté à une très forte majorité. Simplement, on se rend compte que le sabotage, c'est un petit peu le champ du cygne. C'est quelque chose qui est symbolique, qui ne sera jamais appliqué en fait par la CGT entre 1897 et 1913. Mais à ce moment-là, c'est une sorte de cri de protestation qui rejoint un petit peu une sorte de mythologie du combat ouvrier. Et en 1913, vous avez en marge différentes organisations syndicales un livre qui est un véritable best-seller de l'époque, qui s'appelait tout simplement « Mœurs ouvrières », qui donne un certain nombre de conseils sur la sociabilité, sur la manière de se mouvoir. Et ce livre, qui est publié donc en 1913, eh bien, il y a une page entière qui est consacrée au sabotage, en disant « le sabotage, on le met uniquement dans les tracts, voilà, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut mettre en pratique ». Bien. Donc 1913, c'est en quelque sorte l'acte de décès du sabotage dans les revendications ouvrières. Et à partir de là, eh bien, dans le cadre du mouvement ouvrier, vous avez progressivement, je ne rentre pas dans le détail, une explosion du nombre de grèves. Hein, je ne vais pas vous donner le détail, mais qui va crescendo 1906-1920, avec notamment donc à Châtellerault. On a des photos de cette période-là où on voit donc les grèves à la manufacture de Châtellerault. On invente par exemple le premier orchestre de jazz à Châtellerault à l'occasion bon, d'une cessation de travail à la manufacture, 1936-1968. Simplement, ce qui est intéressant dans cette explosion des grèves et des mouvements de cessation de travail, c'est d'examiner les grèves violentes. Or, les grèves violentes, elles, sont plutôt en diminution. C'est-à-dire, dès 1906, qui correspond donc à un très important mouvement de protestation avec le 1er mai 1906, les grèves violentes passent sous le seuil des 10%. Et puis, si on fait de 1906 jusqu'en 1968, eh bien, les grèves violentes sont sans doute environ moins de 4% de l'ensemble des grèves. Bien. Donc, on voit à ce moment-là, il y a une sorte d'écart. La grève fait véritablement partie des usages, alors que la violence, elle, est en quelque sorte extirpée, expulsée des mouvements de protestation sociale. Alors, ce qui nous amène aussi à ce moment-là à dire quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler donc, le fiel et l'invective. Donc, le fiel et l'invective, c'est tout ce qui relève un petit peu des violences verbales ou alors d'un certain nombre de comportements qui ne vont pas toujours jusqu'au passage à l'acte. Simplement, lorsque l'on va désigner un ennemi, évidemment, on va utiliser un certain nombre de mots de vocabulaire et ces mots de vocabulaire vont avoir tendance ben, tout simplement donc, à ne pas faire des portraits particulièrement flatteurs de son adversaire considéré comme un ennemi. Alors, première expression qu'il faut prendre en considération, c'est celle-ci. Alors là, Revue des débats, voici la citation. Les barbares qui menacent la société ne sont point dans les steppes de la Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Alors, on pourrait changer un ou deux mots et on pourrait presque croire qu'on est en train d'écouter ou de lire un discours un petit peu donc sécuritaire sur les banlieues considérées comme des zones de non-droit. Simplement, cette phrase date de 1832, donc vous voyez, ce n'est pas nouveau, date de 1832, et c'est une perception qui avait été faite à partir de la première révolte des Canuts. Donc les Canuts, ce ne sont pas des ouvriers, hein, contrairement à une idée reçue, ce sont des tisserands, puisque souvent ils étaient propriétaires de leur métier à tisser, et ils avaient la possibilité d'embaucher eux-mêmes des ouvriers. Et en 1831, lorsque les Canuts entrent en rébellion pour protester contre le tarif qui leur est fait, on envoie l'armée, et les quelques rares gravures qui nous sont parvenues sont des gravures absolument époustouflantes. C'est vraiment une armée d'occupation, les tentes, les canons, les soldats qui patrouillent, etc. Et donc là, à ce moment-là, on considère que les ouvriers sont les nouveaux barbares des sociétés contemporaines. 1832, c'est le tout début de l'industrialisation en France. Bien. Donc on voit à ce moment-là ce discours de mépris, ce discours de rejet tel qu'il se met en place. Là, c'est un discours évidemment donc collectif, mais qui après ça donc connaîtra un certain nombre donc de réajustements. Alors, à d'autres moments, au moment de la Commune de Paris ou pendant le Front populaire, si on fait une sorte d'inventaire du registre lexical, les ouvriers, ça peut être par exemple les fauves qui épient, ou encore la populace indomptée des faubourgs, ou encore la tourbagité, ou la colère sauvage, où on parle encore de jacquerie industrielle. Bien. Et puis, si on fait juste un petit détour par Poitiers, dans les années 1930, les habitants de Montbernage étaient parfois donc qualifiés de sauvages. On disait que c'est des sortes d'Écossais qui sont à la porte du centre-ville. Faites attention. Et quand on lit donc la presse régionale, on voit ce genre d'appréciation. Alors, si vous habitez, j'ai rien absolument, c'est juste une restitution, si je peux dire, de ce qu'on pouvait trouver donc dans la presse dans les années 1930. Bien. Alors, dans le domaine de la vie politique, évidemment, donc là, on ne compte pas les noms d'oiseaux. Là, c'est quasiment impossible de faire un florilège complet. Simplement, donc, pour faire mouche, vous l'avez compris, en général, les qualificatifs ne sont pas adressés à une formation politique ou à un sous-ensemble d'une formation politique, mais à des personnalités. Et donc, parfois, ces noms d'oiseaux sont quasiment injurieux. Si on mettait en comparaison le vocabulaire, par exemple, même de l'entre-deux-guerres, avec celui d'aujourd'hui, donc on trouverait qu'aujourd'hui, c'est relativement édulcoré. Hein, ça manque un petit peu d'animation ou d'agitation. Par exemple, dans les années 30, des députés ont été fouillés et on a retrouvé donc des coups de poing américains dans les poches de députés. Voyez, bon, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sobre et policé. On ne se permettrait pas ce type de comportement et d'ajustement. Alors simplement, vous avez comme ça des hommes politiques qui ont été régulièrement des têtes de turc, mais il faut bien signaler que sur un siècle et demi, celui qui a été, si je peux dire, l'objet des injures les plus fortes, c'est assurément Léon Blum. Léon Blum a été l'objet de campagnes absolument donc épouvantables de la part notamment donc d'organes d'extrême droite et notamment de la part de Charles Maurras. Et Charles Maurras, dans un numéro spécial de l'Action française qui date du 15 juin 1936, consacre près de la moitié du numéro à injurier Léon Blum. Donc là, c'est vraiment un morceau de bravoure. C'est absolu. Alors, par exemple, du style, même s'il n'a pas le nez parfaitement crochu et les lèvres convenablement lipues, voyez, vous avez ce genre de registre comme ça pendant des pages et des pages. Alors, je ne vous parle pas de sa politique gouvernementale, là, un bateau ivre à la dérive, que sais-je, etc. Bien. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que dans les années donc 1936, parfois, certaines injures, lorsqu'elles sont mises en avant, permettent à ce moment-là de réhabiliter ou de cautionner des politiques plus anciennes. Donc les conflits s'inscrivent toujours dans une mémoire longue. Et à ce moment-là, en 1936, on dit que finalement, eh bien, on avait raison de prendre la défense, plutôt de combattre Dreyfus, et que donc c'était bien les anti-Dreyfusards qui avaient raison, puisque les anti-Dreyfusards avaient choisi la patrie, alors que Léon Blum n'a pas choisi la patrie. Vous voyez, on a ce genre donc de propos ou de discours à travers donc ces segments de phrases. Alors maintenant, évidemment, beaucoup plus douloureux, si je puis dire, c'est exécution et massacre à froid. Exécution et massacre à froid. Et là, évidemment, donc dans la société française, on a, si on regarde un petit peu notre passé, on n'a pas beaucoup de leçons à donner à un certain nombre d'autres pays, puisque un certain nombre de combats ou d'agissements de guerre civile qui peuvent se produire donc aujourd'hui, la France les a connus. Certes, peut-être on peut l'espérer dans un passé figé de manière définitive, mais dans un passé qui a quand même été exercé. Alors, dans ces exécutions et ces massacres à froid, il faut tout d'abord peut-être revenir sur une expression, celle de haine froide. La haine froide, c'est quelque chose qui n'appartient pas forcément aux catégories juridiques ou psychologiques. Et pourtant, donc, la haine froide, à travers un certain nombre d'observateurs qui ont été victimes ou parfois donc qui ont été les bourreaux d'un certain nombre de conflits politiques, est une expression qui a régulièrement donc été donc mis en avant. Alors, non, voilà. Alors, simplement, dans cette haine froide, je vous donnerai peut-être trois passages, trois moments. Le premier, c'est en 1848. En 1848, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a une première révolution en février, mais on assiste également à un second temps, un second mouvement, une seconde révolution en juin 1848. Et en juin 1848, c'est un massacre civil. Le peuple français, qui était unanime en février, se déchire. Et les historiens spécialistes des événements de juin 1948 ont montré qu'au niveau de la composition professionnelle ou de la composition sociale, on ne peut pas dire que telle profession ait rejoint plutôt tel camp et tel autre camp. Voilà, donc on a une ligne de fracture donc assez compliquée. On a plutôt d'un côté ceux qui sont aux côtés du gouvernement provisoire, qui seraient plutôt les légalistes, et de l'autre côté, ceux qui considèrent que finalement, par rapport à la crise économique, ce sont les ouvriers qui sont les laissés pour compte, puisqu'on ferme les ateliers nationaux, qui étaient une soupape de sécurité, qui correspondait à du travail proposé à ceux qui étaient sans emploi. Bien. Alors, je résume de manière un petit peu caricaturale, mais c'est à peu près ça. Et à ce moment-là, donc, on a un personnage que vous connaissez bien sûr, Alexis de Tocqueville. Et Alexis de Tocqueville est évidemment plutôt du côté légaliste et du côté des forces de l'ordre. Et voici donc ce qu'il dit comme témoignage. « Je remarquais en causant avec eux, donc là il fait partie des gardes nationaux qui sont du côté de la majorité, je remarquais en causant avec eux, avec quelle effrayante rapidité, même au milieu d'un siècle aussi civilisé que le nôtre, les âmes les plus pacifiques se mettent pour ainsi dire à l'unisson des guerres civiles et comme le goût de la violence et le mépris de la vie s'y répandent tout à coup en ces temps malheureux. » Bien. Donc pour lui, c'est d'abord un constat. Donc ses troupes, au début, c'est des personnes ordinaires policées. Et puis au bout d'une demi-journée de combat, eh bien finalement, donc, ses troupes sont prêtes, si je puis dire, à dépasser un certain nombre de seuils et éventuellement donc, à se laisser aller à un certain nombre d'agissements auxquels ils n'auraient jamais songé, si je peux dire, la veille. Et lui-même poursuit dans ses souvenirs et dans sa correspondance, il dit qu'il s'étonne le soir en rentrant chez lui d'avoir donné des consignes en disant « ne faites pas de quartier, ce n'est pas possible, c'est la défense de la civilisation qui l'emporte, on ne peut pas se permettre de faire preuve de compassion ». Et donc il s'interroge, et c'est son mérite, de dire « mais comment moi-même j'ai pu me transformer comme ça en étant finalement donc un chef impitoyable ?» prêt donc à ne pas laisser, si je peux dire, de témoins ou ne laisser aucune victime vivante derrière les barricades ou dans les immeubles qui environnent. Maintenant, deuxième phase, deuxième période, c'est la Commune de Paris. Non, la Commune de Paris, donc sans rentrer dans le détail, les spécialistes plutôt de la comptabilité macabre ne sont pas des historiens français, mais plutôt des historiens britanniques. Et celui qui a été le plus loin, si je puis dire, dans ce travail-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Holmes et qui a publié un livre remarquable qui s'appelle « La guerre contre Paris ». Et depuis, il a poursuivi et complété son enquête. Alors là, il y a sans doute aussi peut-être une sorte de frilosité peut-être franco-française. Alors sans rentrer dans l'ensemble du détail, si on regarde les données brutes, la Commune de Paris, alors il n'y a pas toujours un accord, mais on considère que finalement donc, le nombre de victimes au moment de la Commune de Paris serait sans doute compris entre 20 000 et 25 000. Alors, il y a des chiffres beaucoup plus importants qui ont été avancés, 30 000, 35 000 morts. Mais si on regarde les différentes pièces comptables, ce serait donc en gros entre 20 000 et 25 000. Alors, on va prendre l'option basse, mettons 20 000. Bon. Si on regarde donc 20 000 morts, eh bien, c'est considérable. Si on reporte ça, par exemple, au nombre, et on le verra peut-être tout à l'heure, au nombre, par exemple, de victimes de l'épuration sauvage, entre 44 ou 45. Où le nombre de victimes de l'épuration sauvage, c'est à peu près 9056, hein, si je ne me trompe pas, je vous redonnerai le chiffre précis, mais c'est moins de 10 000. Donc là, on a deux fois plus de victimes d'un combat fratricide pendant la Commune de Paris. C'est considérable. C'est d'autant plus considérable qu'il importe pour les historiens de regarder pas simplement le nombre brut, mais de vérifier ou d'examiner la manière dont on s'est emparé du corps des victimes et comment on les a tués. Hein, puisqu'il n'y a pas que le chiffre brut, il y a aussi la manière. Et à ce moment-là, Robert Holmes et les autres historiens qui l'ont suivi ont dénombré qu'il y avait eu à peu près sur les barricades 3000 morts. 3000 morts pendant les combats. Bon, imaginons qu'on en ait oublié un certain nombre. Bon, allons-y, ça nous ferait environ donc 5000 morts. Ce qui veut dire que les 15 000 autres cadavres qu'on a été recensés, qui ont été enterrés, etc., les 15 000 autres cadavres sont des cadavres qui ont été tués après les combats. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui s'appelait Benoît Malon et qui a écrit un livre de référence qui s'appelle « La troisième défaite du prolétariat français », eh bien, a bien montré comment ça s'était organisé. Il invente une expression qui est un petit peu osée, mais qui serait celle d'une sorte d'épuration donc, sociale, en disant il y a des enquêtes qui ont été faites, on a visité les différents immeubles, on a fait descendre un certain nombre d'habitants, ceux dont les mains sentaient la poudre, on les mettait d'un côté, ceux dont les mains ne sentaient rien et dont le visage était avenant, on les mettait de l'autre côté, ils avaient la vie sauve. Et donc là, ça ressemble tout à fait à des pratiques beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus proches de nous. Ou par exemple, on a aussi des récits de massacres dans les hôpitaux, en disant que finalement les blessés dans les hôpitaux sont forcément des communards, il faut les exécuter, avec aussi parfois des scènes de cruauté qui ont été rapportées. Alors, il y a parfois bien sûr des exagérations, mais pas forcément. Une infirmière est sortie, on lui coupe d'abord les deux bras parce qu'elle a un pansement, et après on l'exécute, on la fusille. Donc vous voyez, on a à ce moment-là des mises à mort qui sont donc qui relèvent un petit peu de forme du sadisme. Et la mise à mort la plus connue ou la plus exemplaire, si je puis dire, c'est celle de Varlin. Alors Varlin, sans rentrer dans le détail, c'était un ouvrier qui appartenait donc à la Première Internationale. Et Varlin donc, n'a pas voulu s'enfuir, il est arrêté. Et à ce moment-là, sur la butte Montmartre, on va l'exhiber, on va le promener. On va l'énucléer. Et donc à ce moment-là, sanguinolent, on va continuer donc à le promener comme si c'était une bête de foire. Et on va l'obliger donc à s'agenouiller sur les marches d'une église pour être fusillé de cette façon-là. Donc là, on voit que c'est un massacre à froid. Et en même temps, il y a une sorte, si je puis dire, de revanche ou de vengeance qui est prise sur Varlin, puisque d'un point de vue strict, si je puis dire, militaire, on aurait pu le fusiller tout de suite dès l'arrestation. Mais le fait de l'avoir exhibé comme ça répond aussi à un autre dessein, qui est une manière particulière de donner la mort. Et donc cette façon de s'approprier le corps, si je peux dire, d'un vaincu, peut ressembler aussi à d'autres formes de comportement dans des pays, à des périodes pas si éloignées de la nôtre. Alors, bon, comme je suis un petit peu long, je vais glisser tout de suite, si je peux dire, à troisième grande approche, autour de l'impossible conciliation et des difficiles réconciliations. Alors, impossible conciliation et difficile réconciliation. Alors, sans doute faut-il d'abord partir d'un constat qui consiste à dire que dans la société française, quand il y a eu des mouvements relativement donc tendus, des approches de guerre civile, eh bien finalement, il a été impossible de mettre en place des procédures de conciliation. Et finalement, donc, la seule solution, c'est après coup, après les événements, après les massacres, après les combats, après les arrestations, c'est plutôt des techniques de réconciliation. Alors, pour en prendre véritablement la mesure, on peut peut-être passer à travers deux extraits, non ? Alors, le premier, c'est le suivant. Vous avez quelqu'un dont vous avez peut-être encore retenu le nom, qui s'appelait Louis-Antoine Garnier-Pagès et qui fut ministre du gouvernement provisoire de la Seconde République en 1848. Et pour lui, donc, les événements de la Seconde République vont consacrer finalement l'échec des modérés. Le fait qu'il y ait eu juin 48 et que rien ni personne n'ait pu empêcher juin 48, c'est l'échec des modérés et l'échec des hommes et des femmes de bonne volonté. Voilà. Donc c'est un constat un petit peu désabusé qu'il livre en disant donc là, il y a du travail à faire. Deuxième exemple plus tardif, dans les années 30, l'un des fondateurs de la revue Esprit, Emmanuel Mounier, qui est aussi un petit peu le père du personnalisme, considère que la situation en France est particulièrement tendue dans les années 1930 et que finalement, il est coincé entre deux murs de haine. Le premier mur de haine, c'est celui des nationalistes. Et puis le deuxième mur de haine, c'est celui qui, pour lui, représente à ce moment-là le communisme et plus particulièrement donc le communisme venant donc de l'URSS. Et pour lui, finalement, il est important de développer un sentiment de haine, mais il ajoute pas n'importe quelle haine, la haine de la haine. Et pour lui, c'est la seule possibilité pour s'en sortir. Donc là, c'est bien une sorte de discours de conciliateur radical, mais évidemment qui ne trouvera pas beaucoup d'écho, puisque on sait après coup, de manière plus facile, comment la situation s'est développée. Alors, Pour cela, donc, je vous propose peut-être trois approches rapidement. La première autour des modérés et des conciliateurs. Alors, autour des modérés. Alors, en 1848, toujours, puisque c'est vraiment un moment fondateur dans l'histoire de France, c'est vraiment le point de départ de la modernité politique. En 1848, vous avez un personnage que vous avez peut-être retenu qui s'appelait Étienne Cabet. Et Étienne Cabet est souvent donc classé dans les histoires générales du socialisme parmi les socialistes utopiques. Il a inventé, si je puis dire, une société idéale qu'il essaiera de mettre en pratique de l'autre côté de l'Atlantique avec un certain nombre de colonies. Et aujourd'hui, sa mémoire est encore honorée. Il existe des descendants de Français partis là-bas qui se réunissent de temps en temps. Il y a un musée acadien, etc. Bien. Alors, toujours est-il que Étienne Cabet essaye de proposer un programme pour que juin 1848 ne se reproduise pas. Son programme tient en trois points: amnistie, réconciliation et fraternité. Alors ce programme, évidemment, n'est pas bien reçu. On considère que c'est un doux rêveur et qu'il faut passer à autre chose. Et quand il faut fusiller son adversaire, la réconciliation n'a pas lieu d'être. Bien. Alors, à plusieurs reprises, sont donc observées des tentatives comme ça qui relèvent plutôt d'essais individuels. Alors, zut, je croyais avoir mis ma barricade et je vois que cela... Zut, alors. J'avais une barricade, là, je suis désolé, je ne l'ai plus. Alors, bon, ben tant pis. Alors, toujours est-il que, en 1848 et en 1851, vous avez un certain nombre de personnalités qui ont essayé, si je puis dire, de s'interposer entre les différents ennemis, les différents partenaires, et qui ont voulu jouer plutôt le rôle donc de conciliateurs individuels. Mais en France, il n'y a quasiment pas eu, avant la Commune de Paris, de groupes constitués de manière collective qui ont voulu donc jouer véritablement donc les intercesseurs. Avec la Commune de Paris, c'est un petit peu différent et on l'oublie trop souvent. Il y a une histoire donc la plus précise peut-être à mener, que ce soit par exemple les francs-maçons, que ce soit aussi par exemple les maires et les conseillers municipaux du département de la Seine, eh bien ces personnalités ont essayé de s'approcher, si je peux dire, des différents protagonistes, prendre contact avec les communards à Paris et puis avec Adolphe Thiers à Versailles pour essayer de trouver une solution pacifique ou en tout cas donc un compromis entre les différents adversaires. Bien. Alors, je passe un petit peu puisque j'ai vu ma montre et j'ai vu que j'avais été un petit peu long. Alors, toujours est-il que, d'une façon générale, donc, les modérateurs et les conciliateurs en France ont mauvaise presse. On considère que ce sont des personnalités fades ou des personnages molles et qui n'ont pas donc véritablement donc, d'éléments. Alors, simplement, je vais glisser tout de suite vers ma deuxième approche, celle-ci. Voilà, pacification et assainissement. Alors, la pacification est un mot qui est un petit peu donc ambigu et ambivalent, qui a plusieurs sens. La pacification, ça peut être tout à fait donc le retour à l'ordre, mais la pacification, puisque le mot est attesté en 1871, c'est aussi un discours sur un massacre pour justifier une paix retrouvée. Donc vous voyez l'ambiguïté du mot pacification. Alors, on connaît la formule de la Bourdonnais en 1815. Cette formule était exprimée de la manière suivante: il faut défaire des bourreaux, des supplices. Donc voilà comment pacifier la société française. Le programme donc est très clair. Ensuite, deuxième type de discours, un petit peu plus tard, au moment de la Commune de Paris, vous avez donc Edmond de Goncourt, l'un des deux frères Goncourt, l'aîné, puisque le plus jeune est mort avant les événements de la Commune. Il reste à Paris pendant la Commune. Et voici ce qu'il écrit après. C'est donc le discours sur la pacification. Les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillant d'une population, ajournent d'une conscription la nouvelle révolution. Sous-entendu, le massacre est déplorable, mais il n'y avait pas autre chose à faire. Et du coup, maintenant, donc, on est tranquille quasiment pour 30 ans. Il n'y aura pas de nouvelle révolution avant 30 ans. Alors, ce type de discours sur la pacification n'est pas isolé. Un personnage comme Gustave Le Bon, qui est souvent présenté comme l'inventeur de la psychologie des foules, ne dira pas autre chose. Voici ce qu'il écrit textuellement dans le livre « La psychologie des foules ». Il faut les éduquer ou les massacrer. Voilà. Donc, on est exactement, si je peux dire, dans la même perspective. Donc là, on a bien un discours de pacification. Ce qui veut dire qu'à de très nombreuses reprises, la pacification se confond finalement avec l'exercice de la violence répressive. Et au début du régime de Vichy, eh bien, on entend donc régler de vieux comptes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder plus particulièrement les discours tels qu'ils se sont développés entre le 10 juillet 1940 et décembre 1940. puisque là, toutes les mesures ne seront pas prises au cours de la fin de l'année 40, un certain nombre seront prises en 41 et d'autres au début de l'année 42. Mais là, tout le programme est en place. Et parmi donc les comptes, on a donc bien sûr les communistes qui sont appelés les moscoutaires, c'est plus facile à ce moment-là, les apatrides, les métèques, les juifs étrangers, et puis aussi toute personne issue de trois grands-parents de race juive. Bon, voilà. Donc là, entre le 10 juillet 40 et puis décembre 40. Bien. Donc, on a bien ce discours de pacification. Et donc, là, la pacification, lorsque le retour à l'ordre arrive, et ça, c'est important de le noter, se fait bien souvent dans une atmosphère désenchantée. C'est-à-dire que les vainqueurs sont déçus, et puis évidemment, donc, les vaincus trouvent qu'ils ont été donc l'objet de toutes sortes de répressions, donc particulièrement importantes. Ce qui nous amène donc à la dernière entrée autour des réconciliations. Alors, pour réconcilier donc les uns ou les autres, il existe dans la société française finalement que deux solutions, il n'y a que deux dispositifs. Premier dispositif, c'est tout simplement donc le fait d'attendre que le temps passe. Alors vous me direz que ce n'est pas très sophistiqué, mais c'est assez en usage. Voici par exemple ce qu'écrivait donc François Mauriac, qu'on redécouvre plus globalement donc aujourd'hui, un discours un petit peu lucide et désenchanté. Il n'y a plus qu'à attendre désormais que la haine s'épuise. Comme elle est transmissible aux enfants, une génération n'y suffira pas. Et comme pour un temps, il était un petit peu, si je puis dire, reçu à bras ouverts par le général de Gaulle, c'est aussi un petit peu le type de discours qu'il lui dira. Donc comment tourner la page de la Seconde Guerre mondiale, du régime de Vichy et de la résistance. Donc voilà, bon, là on attend que les choses se passent et puis ça ira mieux donc 30 ans après. Autre type de dispositif, c'est tout simplement donc l'amnistie politique. Et l'amnistie politique est une amnistie qui est mise en place au 19e siècle pour la première fois en 1816. Et cette première amnistie est tout à fait donc intéressante parce que jusqu'à présent, dans le débat, on considérait que c'était une sorte de droit régalien, une prérogative du monarque. Et en 1816, eh bien donc le roi à ce moment-là décide d'associer les chambres, il y a deux chambres, la représentation parlementaire à l'amnistie. Et donc, à ce moment-là, il y a un débat assez fourni pour savoir quel est l'objectif de l'amnistie, qui on veut amnistier et comment on va s'y prendre pour amnistier. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on a une sorte de matrice des lois sur l'amnistie qui se met en place dès 1816. Après, donc, vous savez, un certain nombre d'autres lois ou d'autres dispositifs vont être prises. Et à ce moment-là, l'objectif, en 1859, quand on va, par exemple, amnistier les derniers 48 tard, les lois d'amnistie au moment de la Commune de Paris, les lois d'amnistie donc en 45-46 et puis un petit peu plus tardif au début des années 50, veulent tout simplement donc renfermer les passions dans les bornes du droit. Et donc cette formule, cette visée, c'est quelque chose qui sera consacré donc à plusieurs reprises. Alors tout en sachant, voilà, donc je m'arrête avec ça, et puis juste peut-être pour glisser donc quelques mots de conclusion. En conclusion, je voudrais juste faire un détour par un historien qu'on a, plutôt par un personnage qu'on a parfois oublié, qui s'appelait Julien Banda. Et Julien Banda avait publié en 1927 un livre qui fit sensation, qui s'appelle « La trahison des clercs ». Et dans cet ouvrage, « La trahison des clercs », c'est un livre qui est très fréquemment cité, mais qui n'est pas souvent lu. Il y a souvent des contresens qui sont faits à propos de ce livre. Et ce qui est très important, c'est que Julien Banda est également donc l'auteur d'une introduction préface à ce livre, « La trahison des clercs ». Et cette préface est particulièrement consistante. Elle fait 40 pages. Et cette préface a été publiée en 1946. Et à ce moment-là, dans cette préface, il fait en quelque sorte la synthèse, il regarde l'évolution de la société française de 1927 jusqu'à 1946. Et donc, comme personnage évidemment donc pondéré, ses perspectives sont absolument essentielles. Et voici ce qu'il écrit de manière un petit peu désabusée. Eh bien, il se dit que finalement, les ennemis du régime démocratique, je parle de la masse et non des cimes, manifestent aujourd'hui une passion peu variée. Combien les émotions dites antisémitisme, anticléricalisme, socialisme, malgré les formes multiples de cette dernière, présentent plus d'uniformité qu'il y a 100 ans. Et pour lui, donc, la seule transformation, qui n'est pas un message particulièrement optimiste, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les haines étaient relativement dispersées. Au XXe, les haines sont davantage concentrées et on va choisir simplement 5 ou 6 cibles particulières. Alors évidemment, il nous appartient à ce moment-là de changer un petit peu ce message pessimiste de Julien Banda. Je vous remercie.
Merci pour votre exposé, passionnant. Tout au long de votre exposé, j'ai une question qui m'est revenue, qui est pas d'aujourd'hui, mais une phrase qui est, en gros, de mémoire, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Vous en avez fait un peu allusion au début de votre exposé. Alors, je voulais savoir si vous pensiez, moi je me pose cette question en tout cas, si cette phrase se met du côté d'un plaidoyer vers la violence ou d'un plaidoyer de la violence à la violence, la violence réciproque, notamment, bon, comment connaît-on par exemple l'histoire de 1940 à 1945 ? Si les vainqueurs n'étaient pas les mêmes aujourd'hui, est-ce que vous auriez tenu les mêmes propos ? Ou si c'est un plaidoyer ou si c'est du côté, selon vous, de la conciliation, puisque la conciliation supposerait une paix civile qui permettrait de naître la démocratie avec un débat contradictoire et une histoire sans doute écrite différemment.
Oui, alors, bon, dans votre question, il y a en fait trois sous-questions qui chacune pourrait donner lieu donc à un colloque. Alors, je ne vais pas répondre à chacune d'entre elles dans le détail, mais je vais me réfugier à ce moment-là peut-être derrière l'autorité de Jean-Pierre Azéma, qui est le grand spécialiste quand même en France de la période de la Seconde Guerre mondiale. Et pour lui, qui a examiné donc à plusieurs reprises de manière plus attentive, aussi en collaboration avec Jean-Pierre Rioux, la période 45-46, qui est la période intéressante, c'est comment on sort d'un conflit armé, d'un mouvement de résistance et puis d'exaction à une société qu'il faut essayer de reconstruire. Pour lui, il considère que, de toute façon, les choses sont un petit peu donc faussées et viciées, parce que son propos, alors je caricature un petit peu, hein, vous me pardonnerez, voilà, mais pour lui, donc, finalement, en 44-45, on n'a pas été donc jusqu'au bout de l'examen de conscience. Et donc, finalement, à ce moment-là, on a trouvé une solution qui était plus simple, qui était de dire que les vainqueurs, c'est la résistance. On a donc sacralisé donc la résistance, qui a d'ailleurs été le cas pendant très longtemps en France, quasiment pendant 30 ans après. Et on a oublié donc à ce moment-là de dire que eh bien, cette résistance, elle était quand même minoritaire. Alors évidemment, il y a différentes formes de résistance, hein, je ne reviens pas sur le débat. Mais que du coup, eh bien, on n'a pas réglé véritablement les comptes, on n'a pas fait un examen de conscience, à la fois pas simplement pour ceux qui ont pris des positions extrêmes, qui ont soutenu la milice ou qui ont eu des comportements donc tout à fait répréhensibles, mais aussi pour un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont pu avoir parfois, donc on ne demande pas forcément d'être des héros, mais des sympathies par exemple, plutôt éventuellement avec Laval et le régime de Vichy, qui ne se sont pas forcément clairement exprimés. Et donc cet examen de conscience, d'une certaine manière, ils en ont été privés ou plus exactement dédouanés, ou du moins on n'a pas pu approfondir les choses, puisque au sortir de 1945, il y a d'autres priorités, il y a la guerre froide qui se profile, etc. Mais du coup, donc, la France n'a pas pu faire un retour sur son passé. Alors, toute proportion gardée, même si la situation est beaucoup plus dramatique, dans d'autres pays comme par exemple l'Argentine, avec les commissions plus ou moins donc histoire et vérité, un certain nombre de bourreaux ne sont pas poursuivis, mais en tout cas, il y a une sorte d'examen de conscience collective qui est fait, qui est proposé à la société. Et donc, à ce moment-là, on est obligé, à un moment donné, eh bien, de faire cet examen de conscience, au moins à titre personnel, pour savoir où on était, ce qu'on a fait, dans quel camp, jusqu'où. Bon, voilà. Et là, je crois que c'est... Voilà. Et donc, c'est Henri Rousseau, hein, sur son livre célèbre, Vichy, une histoire qui ne passe pas, ou un passé qui ne passe pas. Donc, il y a toujours effectivement un certain nombre d'aspects qui n'ont pas été réglés. Alors maintenant, pour les vainqueurs et les vaincus, si on prend d'autres périodes, je crois que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pendant longtemps, si on prend la Commune de Paris, les vainqueurs au début ont écrit donc l'histoire en justifiant leur prise de position. Mais après, dans la mémoire collective, c'est plutôt donc les vaincus de la Commune de Paris qui l'ont emporté. Puisque dans la mémoire collective, c'est eux qui ont produit un certain nombre d'ouvrages. Et il y a les 5 dernières années, je ne sais pas si vous avez fait attention en librairie, mais on a publié toute une série de témoignages, de récits et de communards. Alors, certains avaient déjà été publiés, mais en une seule fois, en 1890, et pas davantage. Donc là, on a toujours des mouvements qui sont assez compliqués au niveau de la mémoire. Mais pour les historiens, là, je ne vous apprendrai rien, la mémoire correspond à des enjeux d'identité et la mémoire n'est pas l'histoire.
Oui, je vous remercie aussi pour la conférence qui est très intéressante. Moi, j'aurais voulu avoir quelques petites précisions qui ne sont pas directement liées à ce que vous avez dit, encore que sur un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois il y a un an ou deux, sur le paradoxe français, et selon lequel, alors je l'ai pas lu, hein, je précise, selon lequel donc les beaucoup de gens de gauche ou de socialistes de l'entre-deux-guerres se sont retrouvés du côté de la collaboration. Et je pensais à ça lorsque vous aviez, parlé de la trahison d'Éclair de Binda. Et j'aurais voulu savoir, d'abord, la première chose, si c'était vraiment bien réel. Et puis ensuite, si c'est vrai, pour quelles raisons des gens qui, d'apparence, disons, on va dire, qui professent des idées très généreuses, se sont retrouvés dans le camp des nazis ou des collaborationnistes pendant la guerre. Je pense à Déa, enfin, Doriot, d'autres gens comme ça. Voilà.
Oula, bon, alors, c'est une question sensible, compliquée. Non, pour y répondre de manière sommaire, non. Bon, d'abord, il y a des glissements qu'on peut observer donc, à différents moments, parce que Déa et Doriot, ils ont amorcé déjà plus tôt dans les années 30, avec une rupture radicale pour Doriot avec le Parti communiste. Et puis après ça, donc, voilà. Donc là c'est des mouvements qui sont un petit peu différents. Je pense que c'est... d'autres historiens et historiennes l'ont dit, c'est aussi la période de l'entre-deux-guerres qui est une période qui correspond à une atmosphère noire particulière. Et donc là, on a aussi donc un montée des totalitarismes. Et à ce moment-là, que ce totalitarisme soit plutôt de droite ou de gauche, on demande de prendre position. Et dans ces cas-là, si on prend Doriot, dans les mouvements populaires, bon, ce n'est pas quelqu'un qui passe, par exemple, d'un mouvement modéré vers un mouvement plus extrême, c'est quelqu'un qui bascule carrément d'un extrême à l'autre. Ensuite, deuxième chose maintenant pour les glissements. Alors, il n'y a pas que pour un certain nombre d'hommes politiques de gauche. Alors d'abord, il y en a un certain nombre manquants. Qui ont été enfermés, qui ont été internés. J'ai pris l'exemple de Jean Zay, mais la phrase ou la citation, évidemment, c'est aussi une sorte d'allusion à un certain nombre de députés de la SFIO qui ont glissé directement et ont soutenu donc, la Laval. Voilà. Mais ça, c'est toujours... les glissements, on le voit plus, si je peux dire, dans un certain nombre de domaines artistiques. Ça reste toujours une énigme. Et là, les historiens et les historiennes ne peuvent pas répondre tout seuls à ces appartenances. Mais on voit parfois donc un certain nombre d'artistes qui ont eu des positions tout à fait, si je puis dire, ouvertes sur les sociétés de solidarité avec un certain nombre de valeurs qui étaient donc affirmées sur la place publique. Ils ont payé aussi de leur personne pour défendre ces prises de position et puis pris dans un certain nombre de situations dans des contextes différents qui ont glissé progressivement jusqu'à des complaisances avec le régime de Vichy. Les ouvrages plus récents, par exemple, sur la mode sous le régime de Vichy, les artistes sous le régime de Vichy, le cinéma sous le régime de Vichy, montrent bien que, sans forcément aller trop loin, il y a malgré tout une sorte d'inertie, voire de complaisance avec le régime ou les autorités qui sont en place, et pas simplement avec le régime de Vichy, puisque quand on reste à Paris... Alors, évidemment, là, c'est un constat, c'est pas un jugement de valeur, hein, puisque si la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, donc, intéresse autant donc, le jeune public, c'est parce que c'est le moment où, en fait, il faut faire des choix. Alors, évidemment, c'est facile, quand on n'a pas été impliqué directement dans cette période-là, de dire ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, mais c'est aussi pour ça que cette période intéresse autant donc, les collégiens et les lycéens, par rapport à d'autres mouvements qui ont pu être peut-être plus spectaculaires, mais c'est l'heure des choix. Et donc souvent, les collégiens ou les lycéens se disent « Mais moi, placé à cette époque-là, qu'est-ce que j'aurais fait comme choix ?» en fonction des éléments qui étaient en ma possession. Et là, évidemment, ce n'est pas facile. Alors évidemment, on peut avoir le beau rôle en se disant que nous, on aurait fait tel ou tel choix. Mais bon, est-ce si certain, ça, j'en suis pas persuadé. Mais c'est une question très difficile, hein, je suis d'accord avec vous. Alors là, je me souviens plus du titre, j'ai un trou soudain de mémoire, mais il y a un historien américain qui a fait une thèse comme ça sur ce qu'il appelle le pacifisme radical de l'entre-deux-guerres. Et pour lui, ce n'est pas tous les pacifistes, c'est les pacifistes, si je peux dire, les plus intransigeants, qui à ce moment-là, donc, voyant que leurs idéaux s'étaient effondrés, étaient passés donc, de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, voilà, mais ça peut être l'amorce d'une explication possible ou des clés de compréhension.
Bon, merci.
Merci.